Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un coup d'État au Soudan. L'armée soudanaise a arrêté la plupart des dirigeants civils. Cela arrive après des semaines de tensions entre militaires et civils qui se partageaient le pouvoir. Notre invité sera Marc Lavergne, chercheur au CNRS, spécialiste du Soudan. Israël va construire 1355 nouveaux logements pour des colons juifs en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère de la Construction. Plus de la moitié de la population afghane sera cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë, un cri d'alarme des agences des Nations Unies. 3 personnes sont mortes dans des inondations en Tunisie, des inondations qui ont touché plusieurs régions du pays le week-end dernier. Le trafiquant de drogue, Sofiane Hamli, a été arrêté au Maroc. Il était en cavale depuis mars dernier. C'est au théâtre de l'Élysée Guillotière à Lyon, le début ce mardi du festival Images Migrantes. Nous écouterons Sébastien Escande, coordinateur général du réseau Trace. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il reviendra sur l'enjeu de la présidentielle de 2022, extrait dans votre journal. Un coup d'État au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête des autorités de transition, a annoncé la dissolution du gouvernement. Il a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Cela après que l'armée a arrêté la plupart des dirigeants civils, après des semaines de tensions entre des militaires et civils qui se partageaient le pouvoir. Des forces armées détiennent le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, arrêté après avoir refusé de soutenir un coup d'État, selon un communiqué du ministère de l'Information. Des soldats ont pris d'assaut le siège de la radio-télévision d'État, le réseau internet. Internet du pays a été coupé. Le ministère de l'Information soudanais a annoncé que les forces armées ont tiré sur des manifestants refusant le coup d'état militaire à Khartoum. Le chef de la diplomatie européenne appelle la communauté internationale à remettre la transition soudanaise sur les rails. Gros plan sur cette situation, sur l'origine des tensions entre les civils et les militaires au Soudan, avec Marc Lavergne, chercheur au CNRS, spécialiste du Soudan.
Les civils et les militaires au Soudan sont parvenus à un accord pour une transition démocratique de 39 mois, c'était au mois d'août 2019, et depuis lors, cette transition démocratique, elle évolue avec des à-coups, avec des faiblesses et avec des entorses, c'est-à-dire que les militaires n'ont jamais joué le jeu vraiment. On peut même penser que la déposition d'Omar al-Béchir au mois d'avril 2019 était un coup monté des militaires en quelque sorte, un peu comme ça s'est produit en Égypte avec la déposition de Hosni Moubarak et son remplacement par le maréchal el-Sissi. Donc les militaires avaient des raisons de modifier le pouvoir à Khartoum, mais ils avaient besoin des civils pour obtenir de l'aide étrangère, puisque le pays était en faillite. Donc M. Abdallah Hamdok, qui est un financier, je dirais, a eu pour mission d'aller chercher de l'argent à l'étranger, dans les pays occidentaux, auprès des institutions internationales. Il a plus ou moins rempli son mandat, mais en même temps, la population soudanaise n'a vraiment pas vu les résultats encore de ses efforts, c'est-à-dire que la situation économique est tout à fait catastrophique. Hein. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pain, comme c'était le cas en décembre 2018, quand les manifestations ont commencé pour faire tomber Omar al-Béchir. C'est-à-dire que la situation n'a pas vraiment évolué. Et sur le plan sécuritaire non plus, puisque on voit qu'au Darfour, il y a toujours des affrontements tribaux auxquels le pouvoir central ne peut pas faire face. Donc vous voyez, même s'il y a eu un enthousiasme populaire dans la jeunesse en particulier, et les travailleurs du Soudan central et de la capitale, eh bien cet enthousiasme est retombé devant les dures réalités et l'absence de soutien étranger. Les militaires attendaient leur heure pour reprendre le pouvoir, puisque les militaires, comme en Égypte finalement, vivent du budget de l'État et en consomment les trois quarts, hein, on va dire, alors qu'il n'y a plus de guerre à mener. C'est donc une dégradation de la situation des militaires sur le plan financier qui motive en partie cette décision-là de déposer le Premier ministre. Et puis il y a des soutiens étrangers. Je pense que la Russie, la Turquie, les pays du Golfe sont satisfaits, comme l'Égypte. Tous ces pays qui sont hostiles à la démocratie sont évidemment ne pouvaient pas être favorables favorable à cette transition démocratique.
Les militaires qui ont profité de cette situation sociale particulièrement difficile pour reprendre le pouvoir.
Je pense même qu'ils sont allés plus loin et on peut voir que ces derniers temps, le ravitaillement, le trafic des marchandises entre le port sur la mer Rouge de Port-Soudan par lequel parvient toute la nourriture en particulier, eh bien, était coupée par les tribus de l'Est. Et on peut penser que l'État profond soudanais, qui est dirigé par M. Salah Gauche, et qui est extrêmement puissant, hein, qui a tenu le pays pendant 30 ans, eh bien, était à l'action, à la manœuvre, parce que le pouvoir civilo-militaire n'a pas été capable d'éradiquer cet État profond qui contrôle l'ensemble du pays, village par village, etc. Et M. Salah Gauche, dit-on, n'est plus en prison, mais est en Égypte. Donc il a dû effectivement s'activer depuis déjà plusieurs mois ou années pour procéder à cette opération d'élimination des civils qui en quelque sorte était programmée dès le départ.
Comment évaluez-vous la popularité de ce qui est présenté comme un coup d'État au Soudan, au sein de la population soudanaise?
Ce coup d'État n'est pas populaire du tout dans la population, comme l'a montré la dernière manifestation qui aurait rassemblé près d'un million de personnes. Ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, il y a toute une génération de jeunes Soudanais qui sont hostiles à ce pouvoir militaire et de l'appareil de sécurité, et aussi ce pouvoir mercenaire, parce qu'il ne faut pas oublier M. Mohamed Hamdan Dagalo, Hemeti, qui contrôle des forces qu'il exporte en Libye, qu'il exporte au Yémen, pour le compte de l'Arabie Saoudite ou des Émirats. Eh bien, il y a dans la jeunesse et dans la population soudanaise, d'un côté, une détestation des militaires qui ont, et surtout des islamistes qui ont régné sur le pays pendant 30 ans et qui ont mis le pays à genoux, et d'un autre côté, un principe de réalité qui est que les civils n'ont pas été capables d'améliorer la situation des gens au quotidien.
C'est pourquoi chaque transition démocratique a été brutalement interrompue au Soudan par trois dictatures militaires.
Oui, il y a un peu ça. Effectivement, il y a quelque chose de profondément mystérieux, en quelque sorte, au Soudan, du fait qu'il y a un enthousiasme populaire, qu'il y a une conscience politique extrêmement forte, une capacité d'organisation aussi, avec une tradition de parti politique, mais il y a quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que la rupture avec les militaires n'est jamais complète, et aussi les civils se complaisent peut-être dans des débats qui sont plutôt idéologiques, au lieu de prendre en compte les vrais problèmes du Soudan, qui sont la séparation de la religion et de l'État d'une part, et d'autre part le rapport entre le centre et les périphéries, qui sont plutôt africaines, on va dire, et qui demandent leur part du pouvoir et du gâteau, en quelque sorte.
Quel est le poids aujourd'hui des réactions internationales très nombreuses suite à ce coup d'État?
Il va y avoir beaucoup d'amertume, en particulier pour des pays comme la France, qui se sont assez engagés aux côtés de cette transition démocratique, mais il y a peut-être aussi une rancœur de s'être laissé abuser, c'est-à-dire que on a eu un Premier ministre, Abdallah Hamdok, qui s'est beaucoup déplacé à l'ONU, qui a réussi à convaincre en lui-même un cadre de ces institutions financières internationales. Eh bien, il a réussi à vendre le Soudan, à obtenir des crédits et des remises de dettes, etc. Donc tout ce qu'il fallait pour remettre à flot le pays sur le plan financier, mais la population n'en a pas vu les résultats. Donc les pays qui ont fait cet effort, et l'ONU et l'Union africaine, de soutenir cette transition démocratique, doivent être assez déçus et frustrés. Et c'est le cas, par exemple, du président Macron, qui a beaucoup soutenu cette transition, en invitant le Premier ministre à Paris, etc., mais qui n'a pas pris la mesure. C'est un peu un problème pour l'Occident, ne pas comprendre ce que sont les volontés vraiment des peuples, ne pas saisir la réalité de ces pays de l'intérieur.
Marc Lavergne, chercheur au CNRS, spécialiste du Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne le coup d'État militaire en cours au Soudan et réclame la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Israël va construire 1355 nouveaux logements pour des colons juifs en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère de la Construction. La colonisation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est annexée, illégale au regard du droit international, s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plus de la moitié de la population afghane sera cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'est ce qu'indiquent des agences des Nations Unies. Cet hiver, des millions d'Afghans seront contraints de choisir entre eux, migrer ou mourir de faim, à moins que nous ne puissions intensifier notre aide pour sauver des vies, selon le propos du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Trois personnes sont mortes dans des inondations en Tunisie, des inondations qui ont touché plusieurs régions du pays dans la nuit de samedi à dimanche dernier. À Tala, une ville dans le nord-ouest, deux jeunes gens de 20 et 27 ans sont morts après que leur voiture a été emportée par les eaux. La troisième victime, un jeune homme de 24 ans, est mort à Borj Chakir, une localité près de Tunis. Le trafiquant de drogue, Sofiane Ambli, a été arrêté au Maroc. Il était en cavale depuis mars dernier. Sofiane Ambli a été interpellé dans une clinique de Tanger où il avait été admis après avoir été agressé. Plusieurs axes routiers ont été coupés ce lundi dans différentes régions du Liban. Selon le centre de gestion du trafic, des protestataires, principalement des conducteurs de taxi, ont coupé la voie rapide dite du Ring à Beyrouth dans les deux sens. Le Liban qui est plongé dans une très grave crise socio-économique et financière. Le premier ministre libanais s'est rendu en Irak. Najib Mikati a effectué une visite officielle de quelques heures ce lundi. Au menu de ce déplacement, un entretien avec son homologue irakien Mustafa Al-Kazimi. Le festival Images Migrantes débute ce mardi jusqu'au 31 octobre à Lyon, au théâtre de l'Élysée-Guillotière, 14 rue Basse-Combalot. Pour nous en parler, Sébastien Escande, coordinateur du réseau Trace.
Donc c'est Images Migrantes, c'est un festival de cinéma où en fait on se retrouve pour interroger les représentations des migrations au cinéma. C'est-à-dire qu'on montre une trentaine de films qui parlent de différentes façons de la question migratoire. Et ça se passe du coup du 26 au 31 octobre au théâtre de l'Élysée à Lyon-Guillotière. En fait, on a créé le festival parce qu'on se rendait compte que la façon dont on parle des migrants, les images qu'on a en tête dans l'imaginaire des migrants sont souvent soit le migrant un peu victime qui vient profiter des aides sociales, un migrant voilà qui est quelqu'un à sauver, ou alors c'est le contraire, c'est la personne migrante qui a réussi son trajet, qui a appris à parler le français, qui est un peu une sorte de héros en fait. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'était de montrer les personnes migrantes d'une façon plus normale, quoi. C'est-à-dire que chaque personne migrante a ses propres problématiques dans sa vie, son parcours de vie singulier. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir un peu quels sont les films qui parlent différemment et qui nous semblent parler de façon plus juste des personnes migrantes. Et pour cela, on a donc identifié des thématiques qui, en plus, sont des thématiques qui sont nouvellement traitées dans le cinéma. Donc, bon, il y a des thématiques fondamentales hein, qu'on traite toujours, comme l'accès aux droits, c'est-à-dire l'accès à un logement décent, l'accès au travail, des choses comme ça. Mais on va parler aussi des problématiques plus compliquées, comme la question de la militarisation des frontières, et le fait que maintenant la frontière n'est plus entre deux États, mais elle est aussi partout, elle est au contrôle dans les transports en commun. Quand une personne sans papier n'a pas son titre de transport, il se fait contrôler aussi par la police. On va aussi parler de la question de genre, voilà, la question des femmes dans la migration, mais aussi des personnes trans. On va parler également de l'idée que les migrations peuvent être faites d'aller-retour, c'est-à-dire que si on ouvrait les frontières, on pose la question, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rentreraient chez eux et qu'il y aurait comme ça peut-être des flux assez fluides? En tout cas, on va interroger ça. Et on a toute une journée sur la question des représentations des quartiers populaires avec un film magnifique en clôture de Alice Diop, une réalisatrice franco-sénégalaise qui en fait fait vraiment un portrait de la France multiculturelle, puisqu'en fait, elle fait un portrait de la périphérie parisienne, mais du coup, on va passer du portrait de personnes sans papier qui vivent dans un camion à des gens de classe sociale très riches qui font de la chasse à cour. Et il y a un peu cette juxtaposition de portraits voilà qui constitue la diversité de la société française. Alors, c'est quand même principalement du documentaire, effectivement. Mais on a une quarantaine d'invités, en fait, qui seront là pour accompagner les films. Donc les invités, c'est à la fois effectivement des cinéastes, des réalisateurs, réalisatrices de films, il y en aura beaucoup, quasiment à chaque fois, pour chaque film. Mais il y a aussi des chercheurs, chercheuses en sciences sociales, des géographes, des sociologues, des historiens. Et il y a aussi des représentants d'associations qui sont impliqués sur le terrain en solidarité auprès des personnes migrantes. Et en fait, pour nous, le but de montrer des films, c'est aussi d'aménager un débat public à l'issue du film et faire dialoguer des regards variés, en fait. Et c'est pour ça que ça me semble intéressant qu'il y ait à la fois des artistes, des chercheurs, des militants qui puissent être là en même temps, parce qu'ils n'auront pas les mêmes choses à dire en même temps qu'avec le public.
C'est compliqué de parler sereinement de la question de la migration à 6 mois de l'élection présidentielle ?
Disons que ça donne plus de sens encore à notre travail, parce que c'est vrai que dans les discours politiques, on entend beaucoup d'idées reçues, de préjugés, et la question migratoire est souvent instrumentalisée à des fins de communication politique, et de façon souvent assez grossière. Et du coup, nous, l'idée, c'est de ramener de la complexité, en fait, dans ces phénomènes migratoires, d'amener de la connaissance et de la réflexion partagée, commune, avec le public. Pour nous, c'est pas plus compliqué qu'à un autre moment, mais c'est juste que ouais, ça donne un enjeu peut-être plus fort, en fait, à faire ce que l'on fait. Par exemple, on va rappeler que il n'y a pas une espèce de tsunami migratoire qui va envahir la France. Rappeler que, par exemple, la plupart des migrations se fait de pays sud vers les pays sud, que les flux migratoires finalement sont assez constants depuis très longtemps, à part en 2040 avec la, où il y a eu beaucoup plus de personnes migrantes qui sont venues en Europe, mais sinon c'est assez constant. Enfin, il y a voilà énormément de fake news, comme on dit. Et nous, notre rôle avec des chercheurs et chercheuses, c'est aussi de voilà d'amener des éléments plus précis, plus justes en fait. Hein.
Sébastien Escande, coordinateur général du réseau Trace, le festival Images Migrantes se tient dès demain jusqu'au 31 octobre au théâtre de l'Élysée-Guillotière, 14 rue Bascombalo à Lyon. Stéphane Escande répondait à Loïc Barrière. Le début de la saison des prix littéraires, la romancière Clara Dupont-Mono remporte le prix Fémina pour son roman S'adapter aux éditions Stock. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il évoque notamment les enjeux de la présidentielle de 2022.
Là, nous avons un scrutin qui est un scrutin majeur, un scrutin où la personne qui est la mieux placée pour aujourd'hui contredire à la fois l'idéologie de l'extrême droite et de la droite extrême portée par Macron, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Les éléments aujourd'hui qui nous semblent essentiels à prendre en considération, c'est que plus la situation s'aggrave, et malheureusement, plus nous avons la nécessité de trouver des solutions concrètes. Et dans l'Union populaire, qui est le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon, qui est une démarche beaucoup plus large d'ailleurs que la France insoumise, et qui permet à des gens qui ne sont pas forcément familiers des partis politiques traditionnels de pouvoir rentrer dans la dynamique, est véritablement la solution pour porter cet espoir de la 6e République, parce que le cœur, en fin de compte, de l'ensemble des éléments programmatiques portés par Jean-Luc Mélenchon vise à réinterroger la place du peuple, en fin de compte, dans les décisions majeures qui concernent la vie de la société en général.
Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, ancien vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.